Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, un corps identifié comme étant probablement celui de Liana, une collégienne de 11 ans, disparue depuis le 29 mai, a été retrouvée dans le Gers, ce qu'une autopsie devra confirmer. Les critiques s'intensifient aujourd'hui sur les éventuelles failles judiciaires dans cette affaire. Au Liban, des frappes nocturnes israéliennes sur la ville millénaire de Tyr dans le sud du pays, dont l'un près d'un hôpital, ont tué 7 personnes. Longtemps considérée comme la principale puissance industrielle du continent africain, l'Afrique du Sud a été dépassée cette année par le Maroc dans le classement de la Banque africaine de développement. Nous l'avons évoqué dans les titres, l'émotion reste vive après la découverte d'un corps qui pourrait être celui de la jeune Liana, disparue il y a une semaine dans le Gers. Au-delà du drame, l'affaire soulève de nombreuses questions sur le fonctionnement de la justice et le traitement de certaines plaintes. Le gouvernement réunit aujourd'hui les ministres de l'Intérieur et de la Justice. On revient sur cette affaire avec Nadia Bencher.
Au lendemain de la découverte d'un corps d'enfant dans une exploitation agricole du Gers, les autorités cherchent désormais à comprendre ce qui a pu dysfonctionner dans le suivi du principal suspect. La jeune Liana, 11 ans, avait disparu le 29 mai à la sortie de son collège de Fleurance. Jeudi, un corps portant des vêtements similaires aux siens a été retrouvé près du village de Puy-Casquier. Une autopsie doit encore confirmer formellement son identité et déterminer les causes du décès. Le principal suspect, un homme de 41 ans placé en détention provisoire pour enlèvement et séquestration, connaissait la victime. Au fil des jours, plusieurs éléments sont apparus sur son passé judiciaire, notamment une plainte pour viol sur mineur classée sans suite. L'affaire met aujourd'hui en lumière de possibles défaillances dans le traitement de certaines plaintes et dans le fonctionnement de la chaîne judiciaire. Face à l'émotion suscitée par ce drame, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé de réunir les ministres de l'Intérieur et de la justice afin d'examiner les éventuelles failles du système. Une enquête administrative a déjà été lancée. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est dit terrifié par ce qu'il qualifie de possible dysfonctionnement de la justice. Une affaire qui a immédiatement pris une dimension politique. À droite, Jordan Bardella accuse l'État d'avoir lourdement failli, tandis que Bruno Retailleau appelle à une réforme en profondeur du système judiciaire. De son côté, Édouard Philippe plaide pour un principe de précaution face aux violences faites aux enfants. À gauche, Marine Tondelier dénonce quant à elle les failles d'un système qu'elle juge incapable de traiter efficacement les violences sexuelles. Dans l'attente des conclusions de l'enquête administrative et de l'autopsie, le gouvernement assure vouloir faire toute la lumière sur les éventuelles défaillances révélées par cette affaire.
Et depuis le Monténégro, Emmanuel Macron a exprimé la solidarité, l'affection de la nation à la famille de Liana. Pour lui, il est clair, je cite, qu'il y a eu un dysfonctionnement de la justice. Je vous laisse écouter le président de la République.
Et ceci participe de l'effort que nous organisons avec le gouvernement, cela depuis des années, par le réinvestissement que nous avons fait pour la justice et pour l'intérieur. Et moi, je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Donc elles doivent être établies. Mais ça participe aussi de cet effort qui est fait sur la protection de nos enfants. Et aujourd'hui, nous avons un système collectif, je dirais, du système judiciaire à ce qui est fait par l'aide sociale à l'enfance plus largement, qui doit être encore amélioré et rehaussé. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend. Maintenant, on doit les clarifier en bon ordre. On doit laisser le temps minimal aux inspections qu'on a mandatées pour pouvoir clarifier cette situation. Et sur la base de travaux qui auront été établis, pouvoir justement, à ce moment-là, voir quelles sont les responsabilités collectives, systémiques, et les responsabilités éventuellement individuelles, et prendre toutes les mesures requises. Mais on ne le lâchera pas.
Emmanuel Macron et le ministre de la Justice Gérald Darmanin estiment lui que le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella, le principal suspect dans la disparition de Liana, est tout à fait inacceptable et se dit terrifié par le dysfonctionnement autour des procédures judiciaires visant le principal suspect Gérald Darmanin.
Nous sommes tous terrifiés par ce dysfonctionnement. qui, je crois, est révélateur, je l'ai dit dans la commission d'enquête parlementaire, de notre mauvaise organisation, et sans doute au ministère de la Justice comme ailleurs, du fait que nous ne prenons pas au sérieux la parole de l'enfant. Et nous devons absolument prioriser les plaintes des êtres les plus vulnérables qui soient, même quand il n'y a pas assez d'officiers de police judiciaire, même quand les parquets sont débordés, quand il y a, et c'est le sens de mes instructions de politique pénale depuis que je suis arrivé, quelques jours après mon arrivée à la chancellerie, j'ai pris une instruction qui a mis l'enfant en numéro un des actions de ce que devaient faire les procureurs de la République. Quand il y a une plainte d'un enfant, on doit quasiment tout arrêter pour la suivre, parce que c'est l'être le plus vulnérable qu'il nous faut protéger. Manifestement, là, on verra ce que dira l'enquête, mais on a de quoi s'interroger sur notre responsabilité collective.
Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Direction le Moyen-Orient, au Liban, des frappes nocturnes israéliennes sur la ville millénaire de Tyr, dans le sud du pays, dont l'une près d'un hôpital, ont tué 7 personnes. Et l'armée israélienne a annoncé en fin de matinée qu'elle s'apprêtait à mener des frappes visant, selon elle, le Hezbollah dans la ville côtière de Sarafarand, dans le sud du Liban, en dépit du nouvel accord de cessez-le-feu annoncé par Washington. Mais pour rappel, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a rejeté cet accord et réclame, lui, un retrait très total des forces israéliennes et menace le nord d'Israël de nouvelles attaques. Et toujours sur la situation au Liban, l'ONU a plus que doublé aujourd'hui son appel aux dons pour le pays du Cèdre et réclame près de 640 millions de dollars sur 6 mois. On reste au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie iranienne a écarté toute possibilité de rencontre suggérée par Donald Trump entre le président américain et le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Et l'ONU avertit un scénario d'une aggravation record de l'insécurité alimentaire dans le monde en cas de conflit prolongé au Moyen-Orient est en train de se concrétiser. Dans le reste de l'actualité, longtemps considérée comme la principale puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud a été dépassée cette année par le Maroc dans le classement de la Banque africaine de développement. Une évolution qui reflète avant tout la diversification de l'économie marocaine et l'essor de nouveaux secteurs industriels. On écoute l'analyse de l'économiste Abdelmalek Alaoui.
Alors d'abord, il faut rappeler ce qu'est le classement de la Banque africaine de développement. C'est un indice composite. Hein. Il ne parle pas de volume, il parle de votre niveau d'industrialisation. Il est évident que l'Afrique du Sud, elle a des capacités plus importantes parce qu'elle a notamment une industrie qui est issue des mines et des dérivés des mines. L'Égypte a un marché intérieur beaucoup plus grand que le Maroc. Donc en réalité, c'est comment est-ce que intrinsèquement le pays est de plus en plus développé, comment est-ce qu'il développe tous les secteurs industriels. Dans le cas du Maroc face à l'Afrique du Sud, c'est à la fois la progression importante du Maroc avec les deux constructeurs automobiles et les 1000 équipementiers automobiles qui sont derrière, mais également l'écosystème aéronautique, très important. Il n'y a pas un seul avion dans le monde qui vole sans une pièce marocaine. Et puis le dernier pari en date, qui est celui de la mobilité électrique et de la batterie, couplé à ces infrastructures de premier rang, dont le port de Tanger Méditerranée, qui est aujourd'hui le premier port d'Afrique avec 11 millions de conteneurs par an.
Abdelmalek Alaoui, économiste. Dans l'actualité en France, Sophie Binet a été reconduite au poste de secrétaire générale de la CGT et elle entend désormais faire peser son syndicat dans le débat présidentiel. À Paris, les cantines scolaires seront gratuites à partir de la rentrée de septembre pour les familles les plus modestes dans les écoles et les collèges publics, soit pour plus de 17 000 enfants, a annoncé le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Et enfin, à l'occasion du 43e marché de la poésie qui se tient jusqu'à dimanche, place Saint-Sulpice à Paris, la poétesse et chanteuse franco-marocaine Sappho nous invite à aller découvrir des poètes contemporains. Je vous laisse l'écouter.
Je trouve que c'est une manifestation indispensable, parce qu'il y en a si peu autour de la poésie, je veux dire. C'est un rendez-vous merveilleux avec tous les éditeurs qui sont là, avec des auteurs qui traînent. C'est un marché. On rencontre des poètes, il y a de la musique, on écoute des poètes aussi. Moi, je trouve très important la lecture à voix haute de la poésie. Et c'est très important. Il y a une espèce de chair vocale de la poésie qui est encore une autre lecture, une proposition de lecture, disons. Ce qui se passe, moi, je croise leur poésie parce que, bon, par exemple, je suis marraine d'un festival de poésie des Voix de la Méditerranée à 7 tous les ans. Ce sont tous les poètes du parcours méditerranéen qui viennent et qui proposent dans tous les endroits de la ville des poèmes. Et tout. C'est merveilleux. Et du coup, on croise de la poésie. Et l'art, c'est indispensable. Quand vous voyez l'horreur du monde et on ne sait plus où donner la tête et où est la folie, où est la fureur, eh bien, il y a quand même l'art qui permet de se dire que ça vaut la peine quand même d'exister, de subsister, quoi. Il y a toujours des pépites et c'est à nous de les trouver. Et c'est ça qui est beau dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez picorer, qui allez chercher et qui allez trouver, en tout cas, le poète qui vous parle. Parce que c'est des rencontres aussi. Aimer un poète, c'est rencontrer quelqu'un. Moi, par exemple, il y a une poétesse gréco-tunisienne, Marianne Cazaras, qui me touche beaucoup. Alors, c'est parce que c'est un mode qui me touche, il y a un côté antique quasiment dans sa façon de faire et en même temps très moderne. J'aime ça, j'aime qui aussi ça, quoi. C'est mon côté oriental.
Et Sappho présentera au marché de la poésie son recueil de poèmes Traverser la nuit aujourd'hui, demain et dimanche. Et elle lira des poèmes de son dernier livre le 13 juin à la Maison de la Poésie à Paris. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.